pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour une ville nature, un cycle d'émissions organisé dans le cadre du programme européen Cité Verte Europe, comme vous l'avez entendu, avec le soutien de l'Union européenne. Et ce programme, il est porté en France par l'interprofession Valor. Alors un petit peu d'explication. Valor, ce sont l'ensemble des fédérations, des métiers, du végétal, de la fleuristerie et du paysage. Voilà, c'est dit. Alors, ville nature, et si ce terme portait en lui une contradiction insoutenable ? La crise sanitaire que nous traversons révèle en effet la complexité des relations entre la ville, entre les rassemblements humains et le vivant. Et si l'expansion urbaine et notre désir de nature étaient responsables de la pandémie que nous vivons ? C'est un petit peu le sujet qui nous anime aujourd'hui, les relations entre ville, nature et notre santé. S'agit-il de liaisons dangereuses, à la manière du livre sulfureux de Laclos, qui mêle autant des déconvenues, de la perversité, mais aussi de douces intentions ? Alors pour en parler, nous recevons trois invités, et vous allez le voir, ce choix ne doit rien au hasard. Tout d'abord, Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ancien député et entrepreneur. À votre droite, Philippe Grandcola, écologue et systématicien. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, fondateur et directeur de l'Institut de systématique, c'est important, on y reviendra, évolution et biodiversité, qui est une unité mixte de recherche qui implique notamment le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et enfin, Michel Pena, paysagiste concepteur, ancien président de la FFP, la Fédération Française du Paysage. Vous avez créé la Fondation Paysage avec deux S. Et vous étiez notamment commissaire de l'exposition qui a fait date en 2011 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, la Ville Fertile. Tout un programme. Alors pour commencer, on va démarrer avec vous, monsieur Jean-Christophe Fromentin. Vous êtes, je l'ai dit, maire de Neuilly-sur-Seine. Vous êtes entrepreneur. Et puis en 2008, vous avez conquis sans parti un bastion historique du parti majoritaire à droite. Je veux parler de la ville de Neuilly-sur-Seine. Alors c'est une ville, comme vous le dites souvent, qui est emblématique puisqu'elle est un trait d'union entre Paris et la Défense, traversée par l'axe majeur, cette perspective que l'on doit d'ailleurs à un jardinier paysagiste, un illustre prédécesseur de Michel Pena, le nôtre.
Très illustre.
Cette ville trône souvent en tête des palmarès des villes concentrant un nombre élevé de citoyens assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais vous ne vous contentez pas d'être le maire de cette commune. Ça n'est pas votre seul sujet de préoccupation. Vous vous intéressez au territoire, au sens large. Et vous avez d'ailleurs été à l'initiative d'un projet que vous avez porté à bout de bras, la candidature de la France à l'exposition universelle. Et j'insiste sur le mot universel car c'est au cœur des développements dont nous allons parler, de 2025. Et vous formulez régulièrement des propositions, notamment dans cet ouvrage qui est, si je ne dis pas de bêtises, le dernier en date, « Travailler là où nous voulons vivre vers une géographie du progrès », paru aux éditions François Bourin. Et en avril 2020, petit retour en arrière, le mot confinement avait fait en tout cas dans ce que nous pouvions en connaître son apparition dans nos vies depuis à peine trois semaines. Vous avez commis une tribune avec le professeur Didier Sicard, qui est professeur de médecine, ancien président et actuellement membre du Comité consultatif national d'éthique. Et alors là, c'est l'objet, le feu qui va mettre, l'exergue qui va mettre le feu aux poudres, pardon. Le principal exergue de cette tribune, qui est paru dans le journal Le Monde, était « Coronavirus, les nouvelles configurations urbaines portent en germe les déflagrations écologiques à haut potentiel de viralité ». Alors certains propos de cette tribune ont mis le feu aux poudres, je l'ai dit, et nous l'évoquerons en détail dans quelques instants. En effet, une semaine plus tard à peine, un collectif de scientifiques, dont un certain nombre de vos collègues du muséum Philippe Grandcola, du Muséum National d'Histoire Naturelle, répondait par une autre tribune intitulée « La biodiversité en ville n'est pas le problème, mais une des solutions ». Alors que nous soyons très clairs, cette émission elle vise d'une part à aborder un sujet qui me semble majeur, les liens entre l'urbanisation et l'émergence de maladies, les liens entre potentiels entre notre désir de nature et notre vie en ville, mais aussi à rétablir une véritable dispute au sens du débat dans l'acception du XVe siècle, comme nous le rappelle le dictionnaire de l'Académie française que nos auditeurs connaissent bien parce que j'y fais régulièrement référence. Alors si nous réussissons, au-delà des invectives, à créer un dialogue entre des interlocuteurs qui ne se sont finalement pas parlé directement, eh bien, ce cette émission aura rempli son rôle. Voilà. Alors maintenant que ce préambule, pardonnez-moi chères auditrices et chers auditeurs, était un peu long, et maintenant qu'il est terminé, passons aux questions à nos invités. Alors monsieur le maire, première question, quel était, en résumé, le sens de cette tribune pour vous, en quoi est-ce que les villes, et en particulier les métropoles, pourraient être à l'origine de pandémies telles que celles que nous vivons?
Alors, vous l'avez rappelé, dans la tribune, nous étions deux.
Absolument.
Le professeur Sicard a une expertise que je n'ai pas, c'est la virologie et celle liée à cette hybridation qui était évoquée dans la tribune. Moi, mon approche est plus politique. Elle était pour moi l'occasion, dans ce dialogue avec le professeur Sicard, de poser la question de est-ce que notre sujet, c'est à tout prix de vouloir mettre la nature en ville. Mettre la nature en ville, pourquoi pas, vous voyez, j'y suis pas opposé. Et bien entendu, on a ce sujet de verdir nos villes, dont on sait que c'est une évolution nécessaire pour éviter les îlots de chaleur, pour aussi contenter nos populations qui revendiquent une part de nature accessible là où ils vivent. Mais pour autant, vous voyez, ma réflexion plus politique, elle date de avant cette tribune. Et elle se résume par une question qui peut être d'ailleurs, qui est assez proche du débat, c'est est-ce que c'est la nature en ville ou la ville dans la nature? Moi, je fais encore une fois de la politique, j'observe et j'écoute ce que mes contemporains me disent, j'écoute les sociologues, je regarde ce que les gens aspirent à vivre comme expérience nouvelle. Je vois en même temps qu'on construit un monde qui a les différences de celui qu'on a construit à l'origine de la révolution industrielle, dont la masse critique, dont la concentration urbaine était une condition au fonctionnement de la révolution industrielle, un monde qui est distribué. Et le principe de la technologie, le principe d'un monde en réseau, il est de repenser un modèle économique qui n'est pas concentré, mais qui est distribué. La notion de masse critique, qui s'est entendue dans ce cycle de la révolution industrielle comme une masse critique concentrée dans l'espace, aujourd'hui ouvre un paradigme socio-économique nouveau qui est une masse critique distribuée sur un réseau. Et on voit bien les évolutions en germe, hein, y compris la blockchain, sont des systèmes qui sont de plus en plus décentralisés. Donc à partir de là, vous voyez, je m'interroge, et c'est ce qui a donné, fait l'objet du livre que vous citiez, qui est travailler là où nous voulons vivre versus vivre là où il y a du travail qui a marqué des générations entières et des décennies entières. Et je trouve que cette approche est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde à la fois les travaux des sociologues, des anthropologues sur notre proximité à la nature, on voit bien qu'on est, en permanence attiré par la nature. Parce que des millénaires nous ont façonnés en relation directe avec la nature et ce qu'elle apporte. Et quand je vois en même temps, depuis 10 ans, où j'observe toutes les études sociologiques sur les aspirations des populations et des nouvelles générations, quand en France, pour parler très concrètement, et plus de 80-85% rêvent de vivre dans une ville moyenne ou un village, quand les nouvelles générations s'affranchissent de la concentration urbaine, parce que justement la technologie leur permet de vivre là où elles rêvent de vivre, je me dis, bien sûr, la nature en ville, pourquoi pas, mais je vois aussi, comme maire et comme conseiller métropolitain, les limites d'un modèle dense, d'un modèle concentré, les limites de la métropolisation, et je vois les ouvertures de cette inversion de mettre la ville dans la nature, c'est-à-dire de respecter cette aspiration à travailler là où on veut vivre, à vivre là où on veut dérouler son projet de vie. Et je me dis que, attention, vous voyez, à cette mode qui est de vouloir mettre de la nature en ville à tout prix, avec, voilà, quand on extrapole un peu ce modèle, quelque chose qui a ses limites, mais qui a ses limites parce que tout simplement, d'abord, est-ce que le modèle métropolitain est l'avenir du monde? Je ne crois pas, au contraire, pour différentes raisons qu'on pourrait développer, mais c'est pas le sujet. Et je me dis, est-ce que cet accès à la nature, et un sociologue, Hartmut Rosa, allemand, qui a fait un livre qui s'appelle Résonance, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, hein, qui montre aussi les limites de ce rapport très réducteur à la nature, par rapport à un rapport plus authentique à la nature. Voilà. Et c'est un peu ce que je veux développer. Moi, je crois beaucoup à un modèle qui se renverse, qui se bascule, avec justement l'innovation qui permet d'avoir petit à petit les avantages de la ville en étant plus près de la nature. Je vois que ça correspond aux aspirations des Français. J'ai fait en 2019 un tour du monde dans une dizaine de pays pour soumettre dans le débat cette idée d'un monde plus distribué, moins concentré. Et je pense qu'il y a là, d'un point de vue social, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'espérance, beaucoup d'attente et un modèle à travailler.
Alors, on voit bien cette vision, les limites d'une métropolisation comme étant une assertion, un modèle unique qui nous serait proposé, un peu contradictoire avec nos aspirations. Et puis, avec le professeur Sicard, dans cette tribune, vous dites au fond plusieurs choses. L'expansion et la concentration telle dans les villes nous met en contact avec des zones, des écosystèmes, et c'est un facteur de zoonose, et ça va être ma prochaine question pour Philippe Grand-Collat. Et puis d'autre part, ce désir de nature, de besoin d'ersatz dans des milieux très très denses, n'est pas si aisé que ça. Question un peu scientifique, même complètement, pour vous Philippe Grand-Collat, qu'est-ce qu'une zoonose ? Avec quelques exemples, vous les développez très bien dans votre livre, alors je vais le citer dans quelques instants. Et puis à quelle fréquence, je crois que c'est extrêmement prégnant dans votre ouvrage, est-ce que se produisent ces zoonoses ? Alors avant que vous répondiez, l'ouvrage s'appelle « Le sourire du pangolin » ou « Comment mesurer la puissance de la biodiversité ?» C'est apparu aux éditions CNRS et vous allez d'ailleurs probablement nous expliquer le pourquoi de ce titre à Guicheur.
Guicheur, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il essayait d'être attractif. Il faisait référence à cet animal dont beaucoup ont découvert l'existence à l'occasion d'hypothèses sur l'origine du SARS-CoV-2, du virus de la COVID-19. Je voulais tout simplement rappeler que cet animal, quelle que soit son application réelle, qui aujourd'hui est encore très débattue dans l'origine de cette maladie, est une sorte de métaphore de la diversité biologique. Quelque chose qui n'est pas bien connu, dont nous ne sommes pas familiers, même culturellement. Et scientifiquement de manière très relative, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances encore à acquérir. Et en même temps, un ensemble vivant qui est autour de nous, qui est en nous, dont nous avons besoin, dont nous nous nourrissons, dont nous dépendons, et qui pose problème quand nous le gérons mal ou quand nous avons de mauvaises relations avec lui. Donc, en particulier, effectivement, avec le cas des zoonoses. Les zoonoses, ce sont tout simplement des maladies infectieuses dont l'agent infectieux, le pathogène, est issu d'une espèce animale, une autre espèce que l'espèce humaine, et qui, par l'occasion d'un transfert à la suite de mécanismes variés, peut en fait être introduit dans l'espèce humaine et causer donc des maladies. Donc c'est le cas effectivement de la COVID-19, bien que l'origine ne soit pas encore très clairement établie, mais ça a été le cas de bien d'autres maladies, effectivement, dont la fréquence en matière d'émergence et de pic épidémique en fait va croissant depuis le début du XXe siècle. On sait très bien, par des méthodes historiques diverses, qu'il s'agisse de méthodes proprement historiques ou de méthodes de biologie de l'évolution avec des datations basées sur l'étude des molécules, qu'il y a des maladies qui suivent l'homme depuis des milliers d'années. Il y en a d'autres qui sont apparues au moment de la sédentarisation, par proximité, promiscuité avec des animaux qu'on a domestiqués. Et puis enfin, il y en a quelques-unes qui sont apparues plus récemment. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'avec plusieurs facteurs qui vont ensemble dans nos sociétés modernes, le nombre d'émergences, le nombre d'épidémies augmente depuis le début du XXe siècle. On peut citer pêle-mêle, par exemple Ebola, qui évoque évidemment quelque chose d'épouvantable à la plupart des esprits humains. On peut citer le sida également, qu'on considère comme finalement relativement résolu, alors qu'il y a encore un demi-million de personnes qui meurent chaque année du sida dans le monde. Et puis il y a d'autres maladies un peu moins connues. Bon, le premier SRAS, par exemple, le MERS, qui était une maladie également causée par un coronavirus, mais dont l'hôte intermédiaire était un dromadaire. Et puis le virus Nipah, par exemple, qui est passé de la chauve-souris au cochon et qui a infecté des personnes qui consommaient la viande de porc en Asie du Sud-Est. Enfin, la liste est très très longue. Et tout simplement, on s'aperçoit aujourd'hui que dans le milieu naturel, ce milieu est de plus en plus accessible, de plus en plus fragmenté. Donc on dévaste les forêts tropicales, on en fait une sorte de patchwork dans lesquels des villages colons s'installent. Et puis on a une promiscuité donc qui est accrue par un effet de lisière galopant avec le milieu naturel. Ce qui restait autrefois limité, comme ça a été le cas pour le sida pendant des décennies avant que le monde occidental ne le découvre, ce qui restait autrefois dans les petits villages de campagne et qui causait la misère et la maladie chez des personnes autochtones, aujourd'hui est transporté immédiatement vers des grandes villes et puis via les systèmes de transport peut envahir la planète en 24 ou 48 heures. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec les maladies coronavirus en l'espace de quelques quelques semaines, on s'aperçoit que la maladie peut se répandre dans le monde entier. Voilà. Donc en fait, c'est très simple, depuis le début du XXe siècle, on a fragmenté le milieu naturel, on est encore plus en contact avec lui, on a augmenté le transit vers les grands centres urbains, et puis le transit via les systèmes de transport internationaux vers l'ensemble du globe terrestre. Il faut se rappeler que le monde de notre enfance, en tout cas pour les cinquantenaires dont je suis, n'existe plus. En matière de déforestation et d'augmentation des transports, on est aujourd'hui dans des ordres de magnitude complètement différents de ceux de la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
Donc, il y a là un point de convergence. D'ailleurs, l'épidémie d'Ebola et de Sida est citée dans votre tribune avec le professeur Sicard. Je vais le reformuler pour nos auditrices et nos auditeurs avec mes mots. L'expansion urbaine, la fragmentation des milieux naturels, ainsi que des modes de vie avec beaucoup plus de mobilité, favorisent le transfert, en tous les cas, au-delà du transfert et de la zoonose, l'expansion de l'épidémie et jusqu'à un statut de pandémie. Alors, là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un consensus. Je vois Michel Pénin qui trépigne d'impatience, on va y venir très bientôt, mais ce qui a suscité une réaction assez vive d'un certain nombre de scientifiques, notamment de naturalistes du Muséum National d'Histoire Naturelle, M. Fromentin, c'est le chapeau de l'article qui indiquait notamment « L'urbanisation et l'introduction d'espèces sauvages en ville amplifient le risque de passage à l'homme de virus portés par des animaux. » Donc, d'un côté, l'expansion urbaine fragmente les milieux, et puis ce désir de nature pourrait provoquer l'expansion de virus. Vous citez notamment les marchés animaux. Philippe Grandcollin, comment vous réagissez et pourquoi, à votre avis, ça a suscité une telle réaction de la part de vos collègues?
Je pense simplement que le mot nature, malheureusement, est un mot valise, hein, mais que j'utilise moi-même. Donc, bien sûr, il n'y a pas de mal à utiliser ce mot que tout le monde utilise. Malheureusement, il est un peu, comme disent les linguistes, hein, il est polysémique, et donc chacun y met un peu des notions potentiellement différentes. Donc, effectivement, on a besoin de certains éléments de nature en ville, personne ne le nie, hein, vient de le rappeler, limiter les îlots de chaleur, enfin, c'est vital. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes actuellement qui meurent de manière prématurée, par exemple, dans la région Île-de-France, des îlots de chaleur que des zoonoses comme la leptospirose ou la toxoplasmose. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut évidemment pas prendre en compte ces différentes cause de problèmes majeurs en termes humains. Donc le mot nature, en fait, contient différentes acceptions. Donc autant on peut être d'accord avec certains éléments naturels, autant effectivement on doit prendre garde à ce que certains autres éléments ne causent pas de problème d'autres espèces animales qui pourraient être potentiellement réservoirs ou vectrices d'agents pathogènes. Donc je pense que c'est la nature du mot, hein, qui en fait cause ce type d'échange qui, moi, à mon sens, est vraiment très intéressant, à tel point que je l'ai cité justement dans
votre ouvrage.
Parce que je trouvais qu'il était extrêmement révélateur. Moi, j'avais des points d'accord avec chacune des tribunes, hein, et je trouvais que c'était très intéressant justement de confronter ces deux visions. C'était très éclairant pour n'importe quel lecteur.
Alors, vous le dites justement très bien dans ce livre, vraiment le passage, il y a beaucoup de passages intéressants, mais la nature peut être d'un côté un fantasme de paradis perdu, de l'autre un enfer vert, on ne supporte pas les moustiques à sa porte. Oui. Et ça rejoint tout à fait le propos de Michel Pénin, vers lequel je me tourne. On a le maître d'ouvrage, on a le scientifique et on a aussi le maître d'œuvre autour de la table, puisqu'il s'agit bien d'agir à la fois autour de la nature, mais aussi dans l'objet urbain, dans les lieux où nous vivons, que nous le voulions ou que nous soyons contraints par le travail. Michel, vous avez à plusieurs reprises cité le vocable de troisième nature. Vous avez d'ailleurs, j'ai amené un petit peu de votre bibliographie, publié en 2010 un ouvrage qui s'appelle « Pour une troisième nature » avec Christine Pena. Qu'est-ce que c'est pour vous ce piège de la nature et pourquoi il faudrait inventer une troisième ? Et sous-entendu, qu'est-ce que la deuxième, en quelques mots ?
Alors, juste, lorsque j'étais à l'école du paysage à Versailles, déjà, les paysagistes évitaient ce mot de nature. Vraiment, on se craignait énormément, soit pour risquer de se faire passer pour des écolos nordistes, et on revendiquait notre latinité. Et aujourd'hui, c'est vrai que, moi je parle de nature relative, parce qu'évidemment que ce sont des natures à composer et à recomposer. Il n'y a pas nature ou pas nature, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que j'ai pris, c'était Bernard Lassus qui avait mis en avant cette historicité de ce mot, c'était la troisième nature. C'est Jacopo Bonfado, au XVIe siècle, parce que le XVIe siècle, c'est une date extrêmement importante dans le développement des villes et dans l'introduction justement de la nature en ville. Henri IV, notamment, et Marie de Médicis, a planté 1600 ormes à l'intérieur même de Paris. C'est les premiers arbres d'alignement. Le jardin du Luxembourg a été ouvert aux Parisiens par Marie de Médicis. Donc on voit très bien que ça a été un revirement très important. Et en Italie, il y a eu la création de ces grandes villas autour de Rome, dont la Villa Lente. Et Jacopo Bonfado, ce philosophe poète, je résume, mais c'est passionnant parce qu'il évoque Cicéron. À l'époque, on redécouvre aussi les Antiques, on redécouvre les Latins, les Grecs. Et Cicéron, notamment, en sortant de Rome, juste au moment où il vivait dans Rome, il sort de Rome et il se rend compte que tout le territoire, comme disait M. Fromental à l'instant, c'était une question de territoire, tout le territoire autour de Rome avait été transformé par l'homme, mais en recréant une nature. C'était des arbres, c'était des animaux, c'était des haies, des ruisseaux, mais tout avait été recomposé par les hommes. Et Cicéron dit, on a créé une seconde nature. Et Jacopo Bonfado, en allant se promener dans le domaine de la Villa Lente, qui est un domaine merveilleux, je ne sais pas si vous connaissez la Villa Lente, qui est une très très belle villa romaine autour de Rome, qui a été créée au XVIe siècle, dans laquelle l'homme a composé autant des statuaires, de la poésie, que des arbres, que des boscos, que des lieux naturels, que des lieux sauvages, je dirais. Il dit, voilà, l'homme a composé enfin une troisième nature qui n'est ni la nature domestiquée et esclave de sa production, ni une nature totalement sauvage dans laquelle il y a des loups, des ours, des vipères, mais une nature harmonisée avec la vie des hommes, qui est en accord, qui est belle, qui est créée par de l'art, qui est composée et qui est en même temps très soucieuse de la vie, de la bonne vie des arbres. Quand on va à la Villa Lente, c'est absolument sublime, évidemment. Il y a des vues sur les grands paysages. Donc c'est une nature sensible en même temps, et une nature aussi écologique, parce que planter un arbre, c'est compliqué. Donc je m'inspire de ce Jacopo Bonfado depuis longtemps et de cette troisième nature pour dire, voilà, le travail des paysagistes, c'est celui-là. C'est l'invention d'une nature relative. C'est une nature sociale ou socialisée. Une nature culturelle, au bout du compte. Est-ce que c'est pas la nature dont on aura besoin et qui sera efficiente pour le 21e siècle? Parce que la nature sauvage, la première nature, ben, elle n'existe quasiment plus. Même les espaces les plus sauvages sont circonscrits. Mmh. Aujourd'hui, ils sont limités. Ce que vous disiez très bien, sont morcellisés. Donc, je pense qu'en effet, la réflexion doit se porter sur cette nature relative, cette nature culturelle et jouissive. Évidemment, j'ai écrit ce livre sur le jouir du paysage. Voilà.
Philippe Grand-Collat, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Et effectivement, ce mot nature a beaucoup d'acceptions, et je vais revenir à vous juste après, avant la pause, Jean-Christophe Fromentin. La Tribune, en réponse à la première du nom, on va l'appeler comme ça, c'était « La biodiversité en ville n'est pas le problème, mais une des solutions ». Et on voit qu'on change de vocable dans la réponse. Mais la biodiversité a une connotation encore différente de celle du paysage, qui se rapproche plus de la troisième nature dont nous parle Michel. On n'en sort pas, c'est très compliqué ce débat.
Oui, d'autant plus en fait qu'on ne peut pas évidemment comparer une mégapole tropicale comme par exemple Rio de Janeiro ou Kinshasa, bien sûr, à Paris ou Bordeaux. Il y a des situations à chaque fois qui sont très différentes, hein, et qui se trouvent aussi dans un paysage au plan naturel et au plan politique très différent. Donc je pense que le grand danger, c'est de vouloir donner des avis trop généraux, dans lesquels en fait finalement on oublie malgré tout, hein, que quel que soit le nom qu'on lui donne, le vivant et sa diversité, donc la biodiversité, on en a absolument besoin. On en est nous-mêmes.
On en fait partie.
On a autant de bactéries dans notre corps que de cellules de notre propre corps, et elles sont absolument indispensables. Bien sûr, quelques-unes, quelquefois, qui nous posent problème, et c'est le rôle de la médecine que d'arriver à les contrôler. Mais néanmoins, on a besoin de cette diversité biologique, et il est illusoire de penser, finalement, construire un environnement dans lequel elle serait absente. Donc, effectivement, toute l'idée d'aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre ce que certains appellent les solutions fondées sur la nature, hein, mais qui reviennent, finalement, effectivement, à une troisième nature, à avoir un environnement dans lequel, qui est suffisamment biodivers, dans lequel on laisse aussi des équilibres naturels s'installer malgré tout, parce qu'on peut pas tout contrôler. La nature, c'est très complexe. Dans un centimètre cube de sol, quel qu'il soit, on a plusieurs milliers d'espèces de bactéries. En France, on a 40 000 espèces d'insectes, 3 000 espèces d'arbres. C'est extrêmement complexe, même dans un simple parc urbain, de maîtriser les équilibres qui sont là. Donc, le rôle de l'écologue ou du jardinier, si je peux me permettre, hein, c'est d'arriver à avoir un écosystème qui s'auto-entretient et qui porte pas en lui, effectivement, des germes de problèmes futurs.
Alors, nous allons en reparler tout de suite. Nous avons donc une exception de biodiversité, de cette diversité du vivant dont nous faisons partie, et le sourire du pangolin. Ça n'est pas parce que le pangolin nous ressemble, c'était ça votre anecdote qu'on lit très bien dans la quatrième de couverture, mais c'est parce que nous sommes des animaux que nous sourions, tout comme le pangolin. Il y a aussi une acception effectivement plus servicielle, les fameuses solutions fondées sur la nature, certains parlent d'infrastructures vertes, et puis il y a enfin, j'ai envie de dire, une dimension presque mystique. Et j'en reviens à Hartmut Rosa, que vous citez avec son concept, le sociologue allemand, avec son concept de résonance, où il nous dit en fait qu'on a un équilibre en trois axes. Un axe horizontal qui est celui du lien social, de la convivialité, une diagonale qui est celle de la possession matérielle, et puis un axe de la transcendance qui est un axe vertical dans lequel il indique l'art, les religions et la nature. Voilà. Ce sera la fin de cette première partie. Merci d'être avec nous dans cette émission pour une ville nature. Il était important de prendre un peu de hauteur et nous allons continuer en musique avec ce titre qui s'appelle « Oiseau » de Laurent Bardenne et du groupe Tigre d'eau douce sur la voix masculine une nouvelle fois. Ça n'est pas la parité qui va gâcher cette émission. C'est de l'humour avec la voix de Bertrand Belin. Musique.
Et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombes. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, 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 cui.
Oh yeah.
Cui, 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 cui.
Oh yeah.
Cui, 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 cui.
Oh yeah.
Cui, 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 cui.
Retour sur le plateau de Pour une ville nature, un cycle d'émissions porté par le programme Cité Verte Europe avec le soutien de l'Union Européenne et par le truchement de l'interprofession Valor. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine et auteur de Travailler là où nous voulons vivre, paru en 2018, de Philippe Grandcollat, écologue et systématicien, auteur du Sourire du pangolin, paru en octobre 2021 aux éditions du CNRS, et de Michel Pena, paysagiste concepteur, qui a écrit récemment Changer de mode de ville en 2021 aux éditions Garden Lab. Alors, nous avons posé le cadre de la dispute, le mot nature qui est un piège, la fragmentation des milieux naturels qui favorise un désordre dans la biodiversité dont nous faisons partie, un fantasme de vouloir nous rapprocher de la nature, y compris dans les villes denses. Maintenant, passons à vos visions et un petit peu plus aux solutions. Peut-être le premier point concerne la recherche. Philippe Grandcollat, vous êtes systématicien et je voudrais que vous nous expliquiez pour nous et puis aussi pour nos auditrices et nos auditeurs en quoi cela consiste parce que, et ça précède la question suivante, il y a, je crois, un point de convergence sur ce que pourrait être une recherche plus équilibrée. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la systématique ?
Alors la systématique, c'est la partie de la biologie qui étudie les rapports entre les organismes vivants, et qui les décrit lorsqu'ils ne sont pas connus par la science et qui propose un système de classification, en fait, qui est basé sur la reconstruction de leur évolution passée. Donc c'est une discipline qui est évidemment fondamentale puisqu'elle nous permet d'avoir un langage pour communiquer au sujet du vivant en donnant des noms d'espèces aux organismes qui nous entourent.
Et vous citez quelques chiffres ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi là cette discipline qui permet de se rendre compte que nous ne connaissons pas grand-chose, en fait. Hein. C'est un peu paradoxal de voir qu'après un grand élan au 18e, 19e siècle, début du 20e siècle, on s'est un peu détourné de la systématique. Et on a aujourd'hui une connaissance d'à peine un quart du monde vivant. Donc c'est vrai que lorsque l'on se tourne vers des problèmes divers et variés, une maladie émergente, une espèce exotique qui pose souci en agriculture ou en médecine, on se trouve souvent confronté à des espèces qui ne sont pas connues par la science et sur lesquelles on doit très très vite avoir des éléments de connaissance pour pouvoir gérer des situations. Donc aujourd'hui, si on va bien sûr dans une forêt tropicale, la plupart des insectes ou quelques-unes des plantes que l'on voit immédiatement autour de soi ne sont absolument pas connues et on a bien du mal quelquefois à comprendre la manière dont les écosystèmes fonctionnent si on n'a pas à la base une petite idée des briques qui les composent. Donc c'est le grand challenge, on va dire, du 21e siècle, hein, finalement en plein milieu d'une crise de l'environnement, d'arriver à avoir une vision un peu plus réaliste du monde vivant, y compris celui dans lequel on arrive un peu comme des éléphants dans un jeu de quilles, comme le disait mon maître Robert Barbeau il y a quelques décennies.
Absolument. Et alors, pourtant, la recherche en sciences du vivant, on va y venir, est significative, pour ne pas dire pléthorique. Et ça rejoint un des propos que vous aviez, Jean-Christophe Fromentin, avec le professeur Didier Sicard, dans cette fameuse tribune d'avril 2020. Vous disiez, il faudrait stimuler la collaboration entre les recherches vétérinaires et médicales. Étudier les moustiques mérite autant d'attention que celle que nous consacrons au génome. Philippe Grandcollat, il y a des chiffres là aussi assez vertigineux entre le nombre de publications scientifiques sur certains modèles. On pense à la mouche du vinaigre, la drosophile, c'est pas un moustique, mais ça, on peut faire une comparaison. Et puis, les publications scientifiques sur l'ensemble du vivant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques clés qui sont dans votre ouvrage et qui donnent un peu le contexte et les enjeux?
Oui, tout à fait. Depuis le début du XXe siècle, en fait, on a fait des découvertes fabuleuses en génétique, en biologie moléculaire, en génomique, dans toutes sortes de domaines qui sont absolument indispensables aujourd'hui à la médecine moderne, à la gestion de nos sociétés. Mais ces disciplines ont occasionné des développements scientifiques considérables sur des organismes qui étaient étudiés d'abord au laboratoire, hein, le rat blanc, la petite arabette des prés, une petite crucifère qu'on peut élever très facilement en serre, la mouche du vinaigre, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on a une grande partie de la biologie dans tous les pays du monde qui s'intéresse plus à ces organismes-là, qui sont étudiés uniquement au labo et qui négligent de fait le reste de la biodiversité. Alors aujourd'hui, on y revient, bien sûr, c'est un mouvement de balancier. À la fin du XXe siècle, on s'aperçoit soudainement que finalement, ces espèces dites modèles au laboratoire ne résument pas la totalité de la diversité du vivant et qu'elles ne permettent pas de régler tous nos problèmes. Et donc, on retourne vers l'étude des organismes plus inconnus que l'on trouve dans le milieu naturel, mais c'est un effet de balancier qui met du temps à s'enclencher. Et aujourd'hui, effectivement, on a par exemple un congrès annuel qui est consacré à l'étude de la drosophile, la petite mouche de laboratoire qui se développe en quelques jours, qui contient autant de personnes que tous les congrès de systématique sur l'ensemble du vivant dans la même année. Voilà, donc ça donne une idée des rapports de force qui existent entre ces différentes disciplines scientifiques.
Eh bien, pour celles et ceux qui voudraient s'engager dans la systématique, qui n'est pas un choix, si je puis assumer ce jeu de mots, systématique, l'invitation est lancée. Et puis, il y a aussi l'expérimentation et la pratique. On va en parler avec Michel Pena. Monsieur Fromentin, avant que vous nous quittiez, je crois, un petit peu plus tôt que prévu, votre proposition pour mieux vivre, accéder au bonheur que vous revendiquez dans votre ouvrage, et puis aussi avoir une vie plus harmonieuse avec la nature et tous les guillemets qu'il faut adopter, vous voudriez, entre guillemets, cesser de croire uniquement à l'injonction de vivre uniquement dans des métropoles. Quel serait pour vous, pour demain, le modèle idéal et les transitions qu'il conviendrait d'opérer?
D'abord, on l'a dit tout à l'heure, la notion de nature absolue n'existe pas. L'histoire est faite d'anthropisation, de sédimentation, d'apprivoisement de la nature. Le risque étant d'accélérer le rythme à un niveau qu'il ne laisse pas à la nature la possibilité de se régénérer. Ce qui est un sujet aujourd'hui politique aussi, hein, pour l'homme. Oui, on travaille sur le métaverse. Là, j'étais à un colloque le week-end dernier là-dessus, sur ce monde virtuel qui est extrêmement tentant pour des générations. Le risque, on le voit bien, c'est de créer un monde virtuel qui prend le dessus sur un monde naturel, qui deviendrait non plus le principal, mais l'exception. C'est ce que dit d'ailleurs Hartmut Rosa. Il dit, si on limite l'accès à la nature un peu authentique, c'est-à-dire une nature hors la ville, à deux week-ends par an dans un gîte rural, vous voyez, on risque de perdre la notion de nature. Moi, j'ai été très marqué par un livre que vous devez bien connaître, qui est à l'aube de la sixième extinction du président du Muséum d'histoire naturelle, cette notion d'accélération incompatible avec le cycle naturel. Et c'est un peu ce qui me fait peur, parfois, dans l'usage de la nature tel qu'il est revendiqué en ville. Attention à une nature qui a toute sa place en ville, pour autant, vous voyez, qu'elle ne devienne pas un produit de consommation, qui en font de la nature, finalement, une espèce de, voilà, de prime, d'éléments un peu de standing, et de perte de vue ce que la nature a d'équilibré, de naturel, authentique, sans revenir bien sûr à une nature absolue qui encore une fois, n'existe pas. Et moi, l'autre élément, c'est que l'homme fait partie de la nature. Mais écoutez aussi quelles sont les attentes de l'être humain, me semble fondamental. Et moi, j'avais fait un livre en 2011 qui s'appelait « Mon village dans un monde global ». L'idée, c'était de dire, en fin de compte, la métaphore du village, elle est très souvent citée par les gens comme étant une forme de rêve, une forme de quelque chose vers lequel ils tendent en termes de qualité de vie. Parce que le village, il est à la fois social, il est à la fois plus solidaire, il a un humus culturel extrêmement fort. Il a donc à la fois des atouts sociologiques, des atouts de modernité, des atouts de proximité avec la nature. Et aujourd'hui, vous voyez, quand j'écoute voilà, tous ces travaux sur les attentes et les aspirations des uns et des autres, je vois bien qu'il y a un curseur à replacer, qui n'est pas tant la métropolisation, dont encore une fois, hein, le modèle est obsolète par rapport au cycle économique et au cycle d'innovation, mais qui est de retrouver un mode plus apaisé, donc une ville plus apaisée et une ville plus proche de la nature telle qu'on l'a définie traditionnellement. Voilà, et c'est tout ça. Et dans cette tribune, vous voyez, moi, mon propos, encore une fois, un propos très politique, hein, et très assumé, c'est dire attention à ne pas aller vers une fuite en avant de la métropolisation et de se donner bonne conscience en disant bon, on mettra un peu de nature en ville et puis finalement on aura soldé l'équation. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense encore une fois, comme je le disais au début, qu'il y a un modèle économique nouveau, plus distribué, qui appelle à d'autres formes de villes, plus dispersées. Alors on peut s'interroger sur l'artificialisation, mais en même temps, vous voyez, il y a quelque temps avec des géographes et des économistes, le bilan des logements disponibles dans la France, dans les villes moyennes et les villages, qui permettent de reloger. Il y a une opération qu'a lancée le gouvernement qui est assez intelligente, qui s'appelle Action Cœur de Ville, pour réhabiliter les centres-villes, de telle manière à pouvoir reloger des gens dans les villes moyennes sans pour autant aller sur l'artificialisation des terres. Et je pense qu'il y a des nouveaux modèles équilibrés. Et qu'un pays comme le nôtre, qui a peut-être comme particularité une très grande richesse géographique, culturelle, une très forte diversité territoriale, ne doit pas céder à cette injonction métropolitaine un peu facile, qui ressemble un peu à une fuite en avant, mais doit aller vers cette idée de mieux redistribuer le peuplement, hein, comme disent les géographes, sur la diversité de notre géographie. Et en même temps, vous voyez, ça a des connotations sociales et économiques, parce que c'est pas le sujet non plus, mais voilà, on a communiqué ces derniers jours les chiffres du commerce extérieur et on voit que notre économie, elle est de moins en moins différenciée. C'est pour ça qu'elle a de plus en plus de difficultés. L'économie industrielle, elle a trouvé sa source dans les territoires, dans nos cultures. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on a une industrie agroalimentaire, une industrie du luxe, etc. Aujourd'hui, si on cède à une industrie métropolisée, indifférenciée, on aura des jours extrêmement complexes devant nous. Donc tout ça pour terminer, je dirais qu'il y a une forme de synthèse politique qui, à la fois, doit considérer la nature dans sa diversité, doit considérer la culture dans ce que la nature a produit, dans ce que la topographie, finalement, a généré aussi de culture, doit considérer des enjeux sociaux, des aspirations sociales, des enjeux économiques et des enjeux écologiques. Et voilà, mon rôle et la raison d'être, hein, d'un engagement politique, c'est d'essayer de comprendre ces différents paramètres pour ne pas partir vers des raccourcis et souvent dans des débats, vous voyez, la nature en ville était une espèce de raccourci un peu bobo. Hein. On dit, bon, on met de la nature en ville, on se réjouit parce qu'on fait pousser 3 fraises au 40e étage d'une tour à la Défense. Vous voyez, bon, très bien, c'est sympathique, mais c'est pas un projet politique. Quoi. C'est une bonne conscience de quelques-uns et ça suffit pas. Et donc, mon propos est vraiment d'essayer de construire cette synthèse. Et je reconnais, vous voyez, comme maire d'une ville très urbaine, hein, et au cœur de la métropole, que mettre de la nature en ville est une nécessité, mais pas forcément l'alpha et l'oméga de l'avenir du monde.
Est-ce que vous avez fait, notamment, ce qui est en cours, avenue Charles de Gaulle, voilà, le long du fameux axe majeur?
On aménage 10 hectares, très végétalisés, on replante 20 000 arbustes, on refait les alignements d'arbres, on crée 4 hectares de pelouse, et on récupère les eaux pluviales, donc tout ça va dans le bon sens. Mais voilà.
Et ça n'est pas un alibi et ça n'est pas un faire-valoir.
Je vois aussi que le modèle métropolitain est un modèle social qui est extrêmement compliqué, que personne ne sait manier parce que la densité et le non-étalement urbain nous amènent rapidement à des solutions très compliquées et que personne ne sait résoudre.
Merci beaucoup et ça fait le lien avec vous, Michel Pena, puisqu'on voit bien cette nature. Merci Monsieur Fromentin. On nous soumet des injonctions souvent contradictoires. Vous avez parlé, monsieur le maire, de culture, vous avez parlé de respect du vivant. On vit actuellement dans des métropoles et il faut les rendre plus vivables, même si ça n'est pas le seul modèle on pourrait nous proposer. Monsieur Fromentin a également parlé des villes moyennes ou des petites villes de demain, pour citer un autre programme porté par l'État. Effectivement, il y a la problématique de l'étalement foncier, de la recherche d'une sobriété foncière, et un certain nombre de parties prenantes de ces sujets disent souvent c'est contre-intuitif, mais dans une ville moyenne qui est dépeuplée, il faut dédensifier et apporter du paysage pour redonner de l'attractivité, de façon à ce que nous puissions faire vivre et attirer des habitants dans les logements vacants. Donc on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Très concrètement, Michel, qu'est-ce que le rôle du paysagiste, du paysagiste concepteur, puisque c'est le terme consacré par la loi. Et dans votre pratique du paysage, qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre pour tenter, avec grande humilité, d'être en quelque sorte l'ensemblier de toutes ces dimensions et de produire un projet qui en est la synthèse?
Oui, merci. Je crois que ce que dit Jean-Christophe Fromentin est exact. C'est-à-dire, je crois qu'il faut maintenant plus voir ville, nature, campagne, mais une ville-territoire. C'est-à-dire, la pensée de la ville-territoire, c'est vraiment une véritable composition nouvelle de la pensée du territoire, dans laquelle doit s'associer, avec différents curseurs de densité, de densification, cette ville associée aux autres paramètres, aux autres éléments compositeurs du territoire que sont la nature, ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire le milieu vivant. Donc cette composition, et je m'oppose pas du tout à la ville, à la densification de la ville. Je pense en effet, ce que je crains beaucoup, c'est la colonisation de la ville, des espaces justement encore naturels et biodiversifiés. Ça, c'est un véritable grand enjeu. Il faudrait arrêter tout de suite de minéraliser, de tuer des sols, de tuer des milieux vivants. Ça, c'est la première des choses. Là-dedans, moi, je m'inscris en effet en tant que praticien. Et je vois très bien que je travaille sur des villes extrêmement denses. Je travaille sur Nice, sur Paris, ben, le Jardin Atlantique. Monsieur le maire parlait de son travail sur l'avenue Charles de Gaulle, sur le Jardin Atlantique. On a fait ça il y a 30 ans. Et en effet, on voit bien qu'aujourd'hui, on a recréé un milieu naturel sur de la dalle de béton, avec des chênes qui sont magnifiques, avec une véritable écologie artificielle, mais une véritable écologie avec des vrais animaux et un vrai milieu vivant. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'en tant que praticien, faut arrêter aussi de dire « tout le monde veut de la nature ». C'est faux. C'est-à-dire, j'ai écrit des préfaces sur un livre qui avait été édité d'ailleurs par Valor, qui s'appelle « Les arbres dans la ville ». De Caroline Molly, sur lequel j'ai fait une préface qui dit « il ne faut pas croire qu'il soit si facile que ça de planter des arbres en ville ». C'est-à-dire, tous les citadins, la plupart, il est de bon ton évidemment de dire qu'on aime la nature. Mais la plupart des citadins aiment la nature à la télé. Ça c'est sûr, à la télé, tout le monde l'adore. Mais combien il est difficile, ne serait-ce que de planter une glycine sur un mur pour qu'elle grimpe le long du mur. Et combien de fois ces glycines sont mortes parce qu'on les a empoisonnées, et combien de fois je me suis fait agresser parce que les gens préféraient avoir des parkings que des espaces verts. Et donc, il faut voir que la vision des citadins, c'est une vision... Il faut comprendre, en fait, que cet enjeu culturel de la naturalisation ou de la biodiversité à l'intérieur de la ville, ou de créer, d'introduire de nouvelles formes de vie à l'intérieur de la ville, ce qu'on trouve tous réjouissant. Et moi, je me réjouis de planter des arbres. C'est un immense bonheur de planter des arbres et de réintroduire du milieu vivant à l'intérieur de la ville. Ça n'est pas si simple que ça. Et que beaucoup des urbains n'en veulent pas, tout simplement. Et que des espaces très denses sont aussi très bien vécus. Donc, ce travail que j'ai de praticien, ça a été de convaincre aussi et de créer une nature jouissive, ce que je dis. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, l'enjeu social, culturel de la nature, il est d'abord de donner du bonheur, de donner du plaisir aux citadins qui sont là, même ceux qui s'y opposeraient, même ceux qui sont obligés de laisser leur voiture de côté pour créer un espace dans les rues de Nice. J'ai végétalisé plusieurs kilomètres des rues de Nice.
La promenade du Paillon.
La promenade du Paillon d'une part, mais deux nouvelles rues dans la trame verte, ce qu'on appelait la trame verte, en supprimant en effet, et à Montrouge on a fait la même chose, en supprimant toutes les places de stationnement des véhicules, je vous dis pas les contentieux que ça veut dire, et les soirées que j'ai passées à discuter. Supprimer des stationnements de véhicules, de machines qui ne servent à rien, c'est-à-dire qu'elles sont stationnées pour y mettre un milieu végétal riche, reconstituer un sol, c'est pas facile. Donc si vous voulez, et maintenant je crois que c'est assez convaincant et que de se transformer des rues en rues-jardins, de véritables rues-jardins, c'est possible. Mais il faut accepter aussi de changer, alors le paradigme on dira, mais changer nos modes de représentation, changer notre culture de la machine et la suprématie de la technologie sur notre vie quotidienne, et de dire, en effet, il faut en effet retrouver ce bonheur des autres formes de vie, du milieu vivant. C'est une grande jouissance, c'est un grand bonheur d'avoir en effet des insectes, des araignées, des lézards, et il ne faut pas en avoir peur. Mais c'est un vrai, véritable débat, c'est-à-dire que là, j'ai fait une étude de rénovation aussi du Bois de Boulogne, qui est un immense espace, le maire de Deuilly le connaît bien, dans lequel je proposais de réintroduire, véritablement, de supprimer les voitures, qui étaient cause de nuisance considérable, notamment la prostitution qui est liée aux véhicules qui traversent le bois, et de reconstituer en effet des espaces naturels à l'intérieur de ce bois. Et on voit très bien que la complexité que ça peut représenter, ne serait-ce qu'abandonner les voitures.
Alors la complexité, je crois que c'est le maître mot de cette émission, qui arrive bientôt à son terme. Justement, on voit dans votre propos, dans celui du maire Fromentin, et nous sommes, je prends le nous inclusif et non pas le on, de plus en plus nombreux à nous ériger contre l'agitation du vert comme un symbole, comme un alibi qui provoque parfois une gentrification très forte, qui parfois se fait au mépris des ressources naturelles, ce qui est complètement contradictoire. Et on voit qu'il faut rentrer dans chaque territoire, dans le génie des lieux, et que le projet est un compromis, un parti pris, après avoir écouté toutes les parties prenantes, comme on dit, et vous avancez vers quelque chose qui, finalement, même s'il défraie la chronique, finit par emporter l'adhésion, parce qu'il n'est pas tiède, en quelque sorte, parce qu'il affirme quelque chose et il propose à vivre, un mot à la mode, une expérience. Monsieur Grandcola, comment est-ce qu'on peut nourrir ce dialogue entre le paysagiste qui va passer à la pratique et le scientifique et le systématicien? Je ne dévoilerai pas un secret professionnel en relatant les quelques anicroches qu'il peut y avoir entre les écologues et les paysagistes, notamment sur le sujet des plantes indigènes, qui pour moi est un sujet extrêmement important, mais qui parfois bloque et nous fait passer des... C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, nous fait passer à côté des vrais enjeux, parce qu'au fond, c'est une référence historique qui est tout à fait, quelque part, subjective. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça, à votre avis?
Alors déjà, en ayant effectivement une vue globale, mais une vue, que, comme vous venez de le dire, qui se décline dans les territoires. Une vue globale, parce que malgré tout, il ne faut pas non plus se limiter à nos métropoles de petite taille en France, dans lesquelles on pense simplement augmenter les espaces verts, gérer mieux une diversité de tissus urbains, depuis la petite ville de 20 000 habitants jusqu'à la grande ville de 500 000 habitants. Il faut se rendre compte aussi que notre monde, du fait des circuits longs, ce monde dont nous parlons là, est dépendant d'autres pays, dits en voie de développement, dans lesquels des mégapoles se construisent parce que nous leur demandons de produire des biens. La majeure partie des biens qui sont consommés par des urbains français viennent de l'étranger. Voilà. Ils causent très souvent ce qu'on appelle la déforestation importée. Et donc nous fabriquons nous-mêmes avec notre consommation de viande, par exemple, excessive, totalement démesurée par rapport à celle de nos parents, grands-parents. Nous construisons le malheur des régions tropicales qui nous revient en effet boomerang, avec par exemple la déforestation en Asie du Sud-Est qui est galopante, Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande, etc., dans lesquelles, au fait, on voit de nouvelles zoonoses émerger, comme les SRAS et le SARS-CoV-2. Donc on est vraiment dans une situation où on doit à la fois avoir cette vue globale, cesser d'utiliser des circuits longs qui sont grotesques, et qui n'existaient pas il y a simplement 40 ou 50 ans, et c'est très difficile de revenir en arrière, et puis à l'intérieur de notre territoire, effectivement, décliner ce que l'on vient de dire, décliner une diversité de territoires dans lesquels on essaye de réinstaller une certaine diversité. Alors on parle de reconnexion à la nature, moi j'aime pas trop ce terme, je suis d'accord avec le concept, c'est-à-dire qu'il faut absolument que nos citoyens effectivement arrivent à se familiariser avec le vivant, parce qu'il leur est indispensable, ils s'en rendent pas toujours compte, bien sûr ça peut être clivant quelquefois,
Il faut en vivre l'expérience.
Mais il faut en vivre l'expérience, voilà, tout à fait. Et puis, il y a des solutions. Effectivement, si on supprime des places de stationnement, il faut créer des transports urbains. Et si on supprime les places de stationnement sans transport urbain, effectivement, on rend la ville invivable et on exaspère les citoyens. Et au final, on va tout à fait à l'opposé du but qu'on voulait atteindre. Voilà, moi, je suis moi-même un urbain et j'ai failli arriver en retard à cette émission parce que j'étais bloqué dans un RER. Voilà. Et comme ça arrive à des centaines de milliers de personnes chaque année. Voilà, donc c'est vraiment il faut avoir une vision réaliste et non clivante de la situation, dans laquelle effectivement il doit y avoir un dialogue entre le scientifique, la connaissance en agroécologie, sur les problèmes liés aux espèces exotiques qui peuvent être introduites ici ou là, sont des connaissances absolument indispensables à acquérir. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement une pratique quotidienne dans laquelle il y a des acteurs qui doivent être compétents et ensemble, on doit trouver une solution, bien sûr.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, puisque nous avons légèrement dépassé le temps qui nous était imparti. La complexité, le dialogue, l'absence de raisonnement simpliste, c'est probablement l'une des conclusions de cet échange. Nous avons découvert la nature sous un angle différent. En tous les cas, c'est un petit peu, après la réouverture des boîtes de nuit, une boule à facettes, les nombreuses facettes de ce mot valise. Nous avons initié un certain nombre de perspectives. Ce que je retiens de vos propos, Monsieur Grandcola, de conclusion, c'est qu'il faut aussi regarder la partie immergée de l'iceberg, tout ce que nous ne voyons pas. Dans la construction, on parle de biodiversité grise, pour citer toutes les externalités négatives ex situ et non pas sur le lieu dans lequel on peut créer un jardin. Ce sera l'objet, je l'espère, d'autres rendez-vous de ce type. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce fil vert sinueux d'une émission peu aisée à conduire, mais elle aura permis, je l'espère, de nouer un dialogue entre des parties prenantes essentielles, le politique, le scientifique et le maître d'œuvre, qui, sur ce sujet de la nature, de la ville et de la santé, ne s'était pas parlé. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle émission Ville Nature.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.